Et nous voulons demander à Dieu de nous parler ce matin, demander à Dieu de nous faire du bien. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous as accordée de pouvoir nous approcher, Seigneur, et ce, avec confiance, nous approcher de toi pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, nous savons et nous croyons de tout notre cœur que des moments pareils sont des moments qui réjouissent ton cœur, puisque tu nous as sauvés pour que nous puissions servir à la louange et à la gloire de ton nom. Merci d'avoir accueilli favorablement, Seigneur, l'expression de nos cœurs, ô Dieu, et toutes ces paroles qui sont sorties de nos bouches. Merci de nous avoir donné l'occasion de danser pour toi, Seigneur, de pouvoir, ô Dieu, nous exprimer d'une manière ou d'une autre devant toi, notre Père en Jésus-Christ, devant toi qui conduit nos pas jour après jour, devant toi qui ne cesse de nous bénir et de rencontrer nos besoins quels qu'ils soient. Seigneur, merci. Quel privilège de te connaître, Seigneur, et de marcher à ta suite. Quel bonheur, ô Dieu, de t'avoir comme sauveur, comme ami fidèle dans nos vies, Seigneur, et de nous attendre à toi, et ce quel que soit le besoin, et ce quelles que soient nos attentes. Seigneur, merci. Merci pour tout. Dans ce même climat, ô Dieu, marqué par le recueillement, dans ce même esprit de louange et d'adoration, nous voulons nous asseoir très humblement à tes pieds, et avec crainte, Seigneur, te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Seigneur, merci d'avoir toujours une parole pour nous dimanche après dimanche. À chaque fois que nous nous rassemblons dans ta maison, à chaque fois que nous nous tournons vers toi, Seigneur, ô Dieu, pour recevoir de toi quelque chose qui vient de ta part, à chaque fois que nous sommes bénis, bénis par ta présence, bénis par ta parole qui reste et demeure, le moyen par excellence de ta révélation aux hommes. Bénis l'outil dont tu vas te servir bientôt pour parler à ton peuple. Bénis également ton peuple, Seigneur, qui est là. Ce sont des brebis, Seigneur, qui font partie de ta bergerie. Ce sont le troupeau de ton pâturage. S'il te plaît, nourris-les, ô Seigneur, par ta parole. Donne-leur, accorde-leur, ô Seigneur, de recevoir ta parole avec enthousiasme, avec soif, car elle est le seul moyen par lequel, Seigneur, tu nous dotes de tes ressources pour nous permettre d'avancer, Seigneur, de gloire en gloire. Merci pour ta parole. Qu'elle soit la bienvenue et bien accueillie dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Que ceux qui sont encore debout puissent s'asseoir. Merci. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce moment que nous venons de passer dans sa présence. Ce moment qui nous a permis de le louer, de l'adorer. Alléluia. Mais nous voulons également le bénir pour ce temps consacré à la méditation et au partage de sa parole. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur le thème de la fois dernière, à savoir « Dieu cherche un homme ». Cette recherche de Dieu par rapport à l'homme selon son cœur, eh bien nous allons nous inspirer du cas de David. Donc David, nous allons ensemble aller voir comment la vie de David, eh bien ce jeune berger, le dernier de sa famille, le dernier de sa fratrie, comment ce jeune homme a pu donc, eh bien, est-il passé par l'école du Seigneur dont il va être question pour en sortir l'homme selon le cœur de Dieu et la réponse de Dieu au problème de son peuple. Dieu cherche un homme, cas de David. Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 16, les 13 premiers versets. 1 Samuel 16 plutôt, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Nous lisons, le Seigneur dit à Samuel, ou l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül ? Moi, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe, ou Jessé, c'est pareil, de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et me tuera. » L'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens offrir un sacrifice au Seigneur. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que le Seigneur avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita donc au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit, donc le prophète se dit, en voyant Éliab, certainement le Messie du Seigneur est ici devant lui. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, donc le deuxième fils, et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore le petit, le fiston. Mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. Le Seigneur dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. C'est lui l'homme, alléluia, pas un ange, pas un surhomme, mais c'est lui l'homme, le jeune homme, comme nous allons en parler. Certes, roux, certes, d'une belle apparence, mais n'était pas le seul à avoir une telle apparence. Son grand frère Éliab respirait la prestance, voyez. Et le verset 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour et après. Samuel se leva et s'en alla à Rama avec le sentiment du devoir accompli. Il a fait ce que le Seigneur lui a demandé. Dieu cherche un homme. Et il a trouvé dans la personne de ce jeune homme le dernier de sa fratrie, à savoir David. Nous l'avons vu la fois dernière, à partir de ce cri presque pathétique que le Seigneur a lancé à l'époque d'Ézéchiel, alors que le pays était en train de sombrer, rongé, gangréné par l'immoralité, par l'idolâtrie et par toutes sortes de péchés et de vices incroyables, alors que le péché ne faisait que croître, comme les lys de champ, et bien en même temps la colère de Dieu se levait, le courroux de Dieu et bien se levait et prêt à s'abattre sur son peuple. Et comme nous l'avons vu, Dieu étant amour, Dieu étant miséricorde, Dieu étant plein de compassion, et bien pour épargner son peuple des foudres de sa colère, il va se lever de son trône et se mettre à la recherche de quelqu'un qui puisse être un frein à son jugement. Quelqu'un qui puisse être la réponse au problème qui rongeait, gangrenait Israël. Mais malheureusement, à cette époque-là, comme lui-même le dira, il n'en a pas trouvé. Dieu cherche un homme. Dieu est à la recherche d'un homme ou d'une femme pour en faire la solution au problème des autres. Mon frère et ma sœur, quels que soient tes besoins, quelles que soient tes attentes, tu dois savoir une chose, que la solution viendra absolument d'un homme ou d'une femme. Gloire à Dieu. Cet homme et cette femme est donc appelé à être la réponse aux problèmes des autres, la solution aux problèmes des autres. Un homme et une femme qui soient un canal au travers duquel le Seigneur manifeste ses grâces sur les autres, manifeste sa gloire sur cette terre. Des hommes et des femmes au travers desquels Dieu va donc manifester son règne. Et comme vous le savez, frères et sœurs, le règne de Dieu reste le seul antidote aux maux qui rongent nos sociétés et nos nations. Le règne de Dieu est la seule réponse à la haine, à l'ethnisme, au tribalisme, à la violence sous toutes ses formes. Le règne de Dieu. Mais ce règne-là, mes amis, se manifeste au travers des hommes et des femmes que Dieu trouve, qu'il prépare, qu'il qualifie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un homme, une femme qui devient un tuyau par lequel il va répandre son huile fraîche sur son peuple, sur son église. Croyez-moi, ici à la borne, Dieu cherche un homme, cherche une femme qui devienne une véritable bénédiction pour son assemblée. À travers toute la ville, Dieu cherche un homme qui devienne la solution au problème qui ronge notre belle chère ville de Kinshasa. Dieu cherche un homme pour ce pays, Dieu cherche un homme pour ce continent. Dieu cherche un homme dans ce monde qu'il puisse utiliser pour être une solution. Solution à toutes sortes de problèmes, pour être la réponse aux attentes des uns et des autres. À l'instar, nous l'avons vu en introduction le dimanche dernier, à l'instar de Diogène, ce philosophe grec, connu pour son mépris très profond pour les différentes conventions sociales, mais aussi pour les richesses, cet homme surnommé le cynique, eh bien, errait, se promenait, la lanterne allumée à la main en plein midi, et lorsqu'on lui demandait la raison de ce geste presque bizarroïde, eh bien, il se plaisait à répondre « Je cherche un homme ». Il en est de même aujourd'hui, mes amis, Dieu passe d'église en église à la recherche de l'homme, avec grand H, alléluia, à la recherche de la femme, parce que le plan de Dieu passe par et au travers de l'homme. L'homme reste la méthode et la stratégie de Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur cherche, il passe dans les rangs ce matin. Il va d'église en église, de commune en commune, de ville en ville, de pays en pays, à la recherche de l'homme qu'il va modeler, qu'il va façonner, de l'homme qu'il va préparer, de l'homme qu'il va qualifier. Il est à la recherche d'un homme, non pas d'un surhomme. Un surhomme avec un verbe extraordinaire. Un surhomme avec une aura toute particulière autour de sa personne, un homme avec un charisme formidable, un charme envoûtant, un homme qui drainerait de foule après lui, pas du tout. Dieu ne cherche pas un surhomme. Et la solution au problème, à nos problèmes quels qu'ils soient, ne viendront pas d'un surhomme, mais de l'homme. L'homme que Dieu recherche. L'homme disponible, prêt à le suivre, l'homme ayant son regard fixé sur lui. Alors nous nous sommes posé la question la fois dernière, où peut-il trouver cet homme dans nos écoles bibliques, nos institutions de formation théologique? Cet homme se trouverait-il dans un pays particulier, dans un coin, dans une région particulière? Où peut-il trouver l'homme qu'il cherche, la femme qu'il cherche? Eh bien, nous l'avons vu, Dieu trouve l'homme qu'il cherche, la femme qu'il cherche, dans son université, alléluia. C'est dans son université, c'est dans son école qu'il prépare et qualifie ces hommes et ces femmes appelés à être des solutions aux problèmes des autres, ces hommes et ces femmes appelés à être des moyens dont il va se servir pour manifester sa gloire sur cette terre, alléluia. Oui, Dieu a une école, une toute petite école, mes amis, et c'est là qu'il va puiser ses perles rares, ses joyaux qu'il recherche pour en faire des solutions. Oui, c'est dans son école, dans cette petite école, c'est là qu'il forme et qu'il qualifie tous ceux qui y sont inscrits. Car il y en a qui résistent, il y en a qui ne veulent pas, qui se contentent simplement du fait d'appartenir au royaume des cieux, d'avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui se contentent simplement d'avoir le nom de Jésus-Christ dans la bouche et qui ne sont pas prêts, mes amis, à s'inscrire dans la faculté de Dieu, dans l'école divine. Alors que ce que Dieu veut, alors que Dieu est préoccupé, non pas par seulement ceux qui sont sauvés et qui restent bras croisés et qui se laissent remorquer par le Saint-Esprit, Dieu, au-delà de cela, est à la recherche pour son œuvre des hommes et des femmes qualifiés. Alléluia. Des hommes et des femmes dignes de lui. Des hommes et des femmes qui marchent selon son cœur. Et c'est là, dans cette école, que l'homme, grand H, l'homme dans le sens générique du terme, c'est là que cet homme-là, Dieu va le trouver. Car c'est par et au travers de cette école que cet homme-là va être qualifié. Alléluia. Il va recevoir enfin son certificat de qualification. Il va enfin recevoir, au terme de son parcours académique, scolaire, dans cette institution divine, il va trouver, eh bien, il va recevoir son diplôme. Et à partir de ça, il pourra alors être l'homme que Dieu recherche. Gloire au Seigneur. Nous allons parler maintenant de cette école de Dieu, avant d'aller plus loin, et de revenir à David. Et voir le lien qu'il y a entre cette école et David. Et voir comment David reste un des brillants étudiants passés par cette école. Et puisqu'il en est ainsi, eh bien, sa vie reste un modèle pour nous. Modèle pour tout leader. Pour tout celui qui est appelé à voir et à assumer une quelconque responsabilité dans le corps du Christ. Il reste aussi un modèle pour tout enfant de Dieu. Appelé à être une solution au problème des autres. Chacun de nous souhaite être un outil entre les mains du Seigneur, oui ou non? Pour la manifestation de sa gloire. D'abord dans sa propre vie. Dans son propre foyer, dans sa propre famille, autour de soi. Être une solution aux problèmes des autres, aux problèmes des collègues, aux problèmes des membres de l'Église. Nous le voulons tous, nous aspirons tous à l'être, mais il faut absolument être prêt à s'inscrire dans cette école. Oui, cette école divine. Quelle est-elle, cette école? Y a-t-il une institution spécialisée qui se trouverait dans une région quelconque, quelque part à travers la terre? Pas du tout. Rassurez-vous. Voyez? Si Dieu avait placé cette école quelque part en France, il lui fallut d'abord avoir un passeport, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, de toutes les bourses. Hein? C'est déjà le premier obstacle, oui ou non? Et puis il lui fallut encore aller chercher un visa, ce qui n'est pas facile, hein, quand on voit comment les pays occidentaux serrent de plus en plus la vis quant à l'octroi des visas, voyez? Donc, ça aurait été très très difficile. Cette école n'aurait pas été à la portée de tout le monde et quelque part, le Seigneur aurait été injuste. Car il n'y aurait eu que ceux qui ont des moyens, qui ont des relations, ceux qui pourraient être recommandés par telle ou telle autre autorité, soit congolaise ou française, et qui pourraient avoir décroché ce visa pour aller en France, pas du tout. Cette école ne se trouve pas non plus aux États-Unis. Cette école ne se trouve pas non plus en Corée du Sud, ou en Afrique quelque part, au Nigeria, en Afrique du Sud, même pas au Congo. Cette école est partout où se trouve le Seigneur. Alléluia. Donc on n'a pas besoin de dire, Seigneur, s'il te plaît, je ne peux pas m'inscrire à ton école parce que je n'ai pas de moyens. Non, cette école est devant chacun de nous. Et chacun de nous peut trouver son inscription. Et chacun de nous peut y entrer. Alléluia. Car le Minerva est gratuit. Il a été payé à la croix de Golgotha. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quelle est cette école? Sans plus attendre, pour avancer, car il y a tant de choses à voir. Ça va nous prendre au moins 2 ou 3 semaines. Eh bien, pour avancer plus vite, cette école divine, cette institution de formation divine, eh bien, c'est l'école de la soumission et du brisement. Eh oui, eh oui. C'est l'école de la soumission et du brisement. Deux vérités qui vont toujours ensemble dans cette école. Ces deux vérités constituent un binôme indispensable pour la qualification dans cette école. En d'autres mots, si on ne vit pas cette réalité de ce binôme soumission et brisement, croyez-moi, il sera difficile que nous puissions réussir dans cette école, que nous allions de classe en classe. La soumission. Le Seigneur a ouvert cette école parce qu'il a besoin d'hommes et de femmes brisés. Personne ne peut être l'homme selon le cœur de Dieu si quelque chose ne se passe pas dans son cœur, si quelque chose ne se brise pas en lui. Gloire à Dieu. Comme Jacob, qui avait reçu un coup ici, qui après avoir rencontré le Seigneur cette nuit-là, son nom fut changé. Il reçut un coup à la hanche. Après cette rencontre extraordinaire, Jacob n'était plus le même. Jacob ne marchait plus droit, imbu de lui-même, arrogant. Voyez-vous, regardant le genre du haut de sa, de son piédestal, de fils. De qui? Hein? D'Isaac. Du haut de son piédestal, d'homme, connaissant Dieu, etc. Pas du tout. Après avoir reçu ce coup-là, l'homme marche en chasselant, en claudiquant. Vous voyez? Et tout celui qui le voyait pouvait savoir que Jacob n'était plus le même. Quelque chose doit être brisé en nous si nous voulons être cet homme et cette femme que Dieu voudrait utiliser. Et on ne peut pas parler de brisement à proprement parler si il n'y a pas au départ la soumission. Et comme vous le savez, la soumission, c'est le fait de se soumettre à l'autorité de quelqu'un. Oui ou non? Eh oui, nous allons en parler. D'abord, se soumettre à l'autorité de Dieu sur le plan vertical. Mais dans cette soumission, il y a aussi l'horizontalité sur le plan horizontal. C'est là que le bât blesse. C'est là que les Romains s'empoignèrent. Car comme nous allons le voir, beaucoup vont utiliser le fait, mais je suis moi aussi appelé. Voyez, moi aussi je sais bien parler comme lui. Mais moi je suis plus fort, je suis dans le Seigneur avant lui. Mais il ne connaît pas d'où je viens. Moi je ne suis pas facilement manipulable. Nous allons le voir, mes amis. C'est le col de la soumission. C'est le col du brisement. Et ces deux réalités, eh bien, sont les deux ateliers de formation dans l'école de Dieu. Vous voyez? L'atelier du brisement. L'atelier de la soumission. La soumission comme moyen qui conduit au brisement. Voyez? La soumission aussi comme état d'esprit dans lequel on se trouve. Mes amis, lorsque nous regardons à l'église du Seigneur, que ce soit ici ou ailleurs, nous voyons qu'il y a toutes sortes d'hommes, toutes sortes de femmes, ayant reçu les uns des ministères, les autres toutes sortes de responsabilités en rapport avec l'œuvre de Dieu. Et parmi ces hommes-là, il y a des hommes qui affirment détenir l'autorité de Dieu, parce qu'ils ont été appelés, mais qui ne l'ont pas. Il y en a d'autres qui affirment être brisés, mais qui ne le sont pas. Il y en a d'autres qui détiennent véritablement l'autorité de Dieu. Mais puisque n'étant pas brisé, eh bien, ils deviennent fous dans la manière d'utiliser cette autorité. Lorsque, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas eu au préalable un brisement, l'autorité que nous avons pourrait devenir une forme de despotisme, d'autoritarisme. Ce qu'on retrouve dans certains milieux, où le pasteur est un véritable despote, celui qui choisit les épouses pour les uns, celui qui décide de la manière de s'habiller pour les autres. Rien ne peut se faire si lui n'a pas dit non, cette couleur je ne l'aime pas. Voyez, il peut avoir été appelé, nous allons le voir, mais n'ayant pas été brisé, eh bien cette autorité, il va mal l'utiliser. Donc, il y a tout un spectre d'hommes que Dieu a, de femmes, dans son Église, voyez-vous. Et il y en a beaucoup. Mais les hommes brisés, les femmes brisées sont peu nombreux. Voilà pourquoi il en cherche davantage. Car un homme brisé, l'homme qu'il trouve à lui seul, ne peut pas être la réponse au problème de l'Église, oui ou non. Puisque n'ayant pas le don d'ubiquité, c'est-à-dire ne pouvant pas être partout en même temps, il faut bien qu'il y en ait d'autres qui soient des hommes, qui soient des femmes selon le cœur de Dieu. Gloire au Seigneur. Des hommes véritablement brisés sont rares. Voilà pourquoi le Seigneur en cherche. Mais des hommes appelés, il y en a plein. Des femmes appelées, il y en a plein. Et de toute façon, nous avons tous été appelés en Christ à devenir des sacrificateurs, oui ou non. Que nous ayons un ministère attitré, que nous ayons une responsabilité quelconque dans le cadre de la bonne marche de l'Église, eh bien, il n'en demeure pas moins que nous avons tous été appelés par le Seigneur. Vous voyez? Mais, il y en a qui résistent au brisement, qui ne veulent pas s'inscrire, voyez-vous, et qui restent là à tourner en rond. Peu d'hommes acceptent de passer par cette école. En d'autres mots, acceptent de connaître le brisement, de vivre, mes amis, la difficulté qu'il y a à demeurer dans un état de soumission. Pas d'asservissement, pas de servilité. Hein. Nous le verrons. Pourquoi il y a peu d'hommes, peu de femmes brisées qui passent par l'école du Seigneur? Eh bien, parce que, écoutez-moi bien, parce que tous ceux qui sont dans cette école et qui acceptent de rester, de demeurer dans cette école, doivent passer, je dis bien, doivent passer par la souffrance. Même des grandes souffrances. Souffrances suscitées, engendrées, générées par toutes sortes d'épreuves. Des épreuves physiques, des épreuves affectives, des épreuves matérielles, professionnelles, spirituelles, eh bien, tout ce qui est épreuve. Donc, dans cette école, s'il y a une réalité, c'est celle de la souffrance, c'est celle de l'épreuve. Or, aujourd'hui, les gens résistent à toute forme de souffrance. De lors qu'il y a un peu de pression là où on est, c'est fini. Ah non, il y a la chair dans cette église. Personne n'est spirituel. On cherche à partir. Et en partant, on empêche Dieu d'accomplir son travail de brisement. Et nous le verrons. Une grande souffrance, la douleur. Eh oui. Dans cette école-là, on n'entend pas souvent, et pourtant c'est la vérité, mais nous sommes les fils du roi des rois. Nous sommes les princesses. Et une princesse ne peut pas souffrir. Non, ma sœur, il faut jeûner. C'est le diable. Nous sommes les fils du roi des rois. Nous ne pouvons pas marcher à pied. Tu as quoi? Tu as un petit... Comment? Qu'est-ce que tu as là? Oh mon frère, ça c'est pas la foi. Tu dois jeûner. En tant que fils du roi des rois, c'est lui à qui appartiennent toutes les richesses du monde. Tu devrais avoir une grosse Prado. On entend ça. Voilà le christianisme, malheureusement, qui est promu un peu partout. Des discours toujours positifs. Une vision du christianisme qui exclut la réalité de la souffrance, de la douleur et de l'épreuve. Eh bien, tel christianisme est incapable de permettre à Dieu de trouver l'homme. Car l'homme dont Dieu a besoin doit passer absolument par le brisement. Gloire à Dieu. Et David, dans tout cela, eh bien, c'est là que la vie de ce jeune homme est un exemple formidable de quelqu'un appelé par Dieu, et en étant appelé, il va entrer dans cette école, l'école de la douleur, l'école de la souffrance, l'école du rejet, l'école des larmes, Voyez-vous? Pas des larmes de crocodile, non. Parce qu'il y en a qui pleurent juste simplement pour attirer le regard des autres. Voyez? Les gens viennent, comment est-ce qu'ils vont savoir que je suis dans le besoin? Sœur, ça va? Je parle de véritables larmes qui proviennent du cœur. Il y a des larmes qui proviennent simplement des yeux. Voyez? Ces larmes-là, on pourrait les avoir. Il y a un vent qui passe, ben. Oui ou non? Mais je parle des larmes qui proviennent du cœur. D'un cœur qui reçoit un coup, qui se retrouve par terre. Comme Paul sur son cheval, alors qu'il allait sur la route de Damas. Alors David, dans tout cela, attardons-nous un tout petit peu sur la vie de ce jeune homme. Nous sommes à l'époque, pour aller plus vite, Saül est rejeté par le Seigneur. Il a désobéi. Eh bien, c'est fini. Il est rejeté. Écoutez-moi bien, il est rejeté, mais il garde encore la couronne. Il est rejeté par Dieu. Après avoir rejeté Saül, qui garde cependant sa couronne, qui occupe encore le palais royal, Dieu s'est levé de son trône, a commencé à mener une enquête. L'enquête qui va le conduire à travers tout le royaume. Il va faire une sorte de porte-à-porte. Il va passer dans toutes les tribus d'Israël, jusqu'à ce qu'il arrive dans la tribu de Juda. Et encore qu'il aille dans ce village, Bethléem, veut dire la maison du pain, alléluia. Et là, Bethléem, il n'y avait pas que la famille d'Isaïe, mes amis. Il y en avait d'autres qui occupaient même des fonctions d'anciens. Parce que ce sont les anciens qui sont venus accueillir le prophète, n'est-ce pas? Des autorités, voyez-vous? Il y en avait ces autorités. Et le célibat étant une denrée rare à l'époque, eh bien nous pouvons croire que tous avaient des familles nombreuses. Oui ou non? Donc ils avaient aussi des fils. Et encore là, Bethléem, le Seigneur va faire le porte-à-porte. Porte-à-porte qui va le conduire jusque dans la famille d'un certain Isaïe, là à Bethléem. Voyez? Il arrive là. Et il trouve l'homme. Ce n'était pas l'aîné. Non. C'était le tout dernier, le petit. D'ailleurs, son père dit, il parle de qui? D'un petit, du fiston. C'était le fiston, pendant que ses grands frères, certains étaient dans l'armée de Saül, hein. Donc, ils pouvaient parader dans Bethléem. Quand ils revenaient à Bethléem, les autres gens, les gens du quartier ou de la ville pouvaient le regarder en disant, oh là là, ils sont dans l'armée, hein. C'est comme aujourd'hui. Quand vous voyez quelqu'un avec quelques têtes de galons là, léopard, hein, ou lion, mais enfin, vous dites, oh là là, il est gradé. C'est vrai. Quand on est gradé, quand on occupe une certaine fonction dans l'armée, on ne passe pas inaperçu. Surtout lorsqu'ils mettent leur tenue de gala. Ah, ils sont beaux, hein. Mais nous sommes tous beaux. Gloire au Seigneur. Donc, quand il revenait, le frère de David revenait à Bethléem, tout le monde savait qu'ils sont là, etc. Mais ce ne sont pas eux. Il va trouver le petit, le plus jeune. Et lorsqu'il le trouve, eh bien, Dieu met un terme à sa recherche. Il trouve enfin le fils d'Isaïe, le plus jeune, David. Et lorsqu'on va chercher David, après que ses sept frères soient passés devant Samuel, à chaque fois Samuel dit, non, mais ce n'est pas celui-ci que Dieu a choisi. Eh bien, et lorsque David arrive, tout de suite le Seigneur dit à son prophète, eh bien, c'est celui-ci. C'est lui. Donne-lui l'onction. Alléluia. Il était parti chez Isaïe, à Bethléem, parce qu'il avait vu un roi. Soyons clairs. Quand il dit, je vois un roi pour moi, il proclame ça, oui ou non. Nous l'avons vu au verset premier. Mais le roi Saül est encore là. Hein. Il n'y a pas de couronne dans un royaume. La bicéphalie n'existe pas. Deux têtes, non. Il n'y a qu'une couronne. On ne peut pas non plus la couper en quatre. coupe ou en trois. Vous voyez? Donc la couronne est encore sur la tête de Saül. Cependant, le Seigneur dit, j'ai vu pour moi un roi. Qu'est-ce qui a attiré Dieu auprès de David? Après avoir fait tout le tour du royaume, il doit y avoir quand même quelque chose qui l'a amené à jeter son dévolu sur ce jeune homme. En d'autres mots, qu'est-ce qui a distingué David des autres personnes du royaume? Il y avait au moins, 12 tribus, et Dieu n'en a pas trouvé dans les autres tribus, jusqu'à ce qu'il se tourne vers la tribu de Juda. Et même dans la tribu de Juda, eh bien, il n'y a eu qu'une famille. Qu'est-ce qui a distingué David des autres hommes du royaume, et même de ses frères? Parce que lorsque le frère aîné passe, Eliab, le prophète se frotte les mains. Et dit, certainement, le Messie de Dieu est là devant lui. Seigneur, j'attends simplement que tu me donnes l'ordre. Il répondait à son profil, hein, oui ou non, mais pas au profil de Dieu. Alléluia. Les critères de Dieu n'ont rien à voir avec ceux des hommes. Les considérations de Dieu n'ont rien à voir, sont aux antipodes des considérations humaines. Voyez? Lorsque Dieu dit, celui... Oh là là, le temps passe vite, c'est incroyable. Lorsque Dieu dit que celui, David, ben, qui est-il? Il était le plus jeune fils de son père. Le plus jeune frère de ses frères. Voyez? Et comme vous le savez, du moins ceux qui ont des enfants, qui ont beaucoup d'enfants, eh bien, le plus jeune fils de n'importe quelle famille nombreuse porte toujours deux étiquettes. Mon épouse et moi, nous en savons quelque chose. Deux étiquettes pour le dernier des fils. Voyez? Eh bien, d'abord, on le considère comme étant ignorant et gâté. Oui ou non? Eh oui. Les autres vont trouver que non, les parents s'occupent plus du petit. Hein? Si le petit ose donner un conseil, il dit, mais qu'est-ce que toi tu connais? Je me souviens de nos garçons. Les deux aînés se suivent. Quand le troisième est arrivé, le troisième garçon, on pouvait entendre quand le petit courait, il aimait le foot déjà 5 ans et tout ça. Mais toi, tu connais rien. Gâté pourri. Voilà. Dont les deux autres, ses grands frères, trouvaient qu'il était ignorant. Et en même temps, il était gâté. Pour peu qu'on faisait quelque chose. Ah oui, mais c'est toujours lui. Mais c'est comme ça dans toute famille. Je crois que les parents peuvent se retrouver dans le propos que je suis en train de dire, oui ou non. Donc, gâté et ignorant. Mais lui aussi, à son tour, lorsqu'il a cessé d'être le dernier, quand la fille est arrivée, eh bien, il tenait le même propos. Toi, Priscilla, gâté, pourri, tu connais rien. Voyez, donc, le dernier, c'est toujours celui qui est gâté, mais en même temps, c'est l'ignorant. Vous voyez? Et généralement, il y a peu d'attentes qui sont placées sur lui. Souvent, les parents se mobilisent pour l'aîné. Et oui, dans nos cultures marquées par la primogéniture, c'est-à-dire le droit d'aînesse, souvent on investit. Et souvent, les tout derniers sont comme abandonnés. Vous voyez? C'est ce qui a amené certains à n'avoir les yeux que pour les aînés. Ils disent non, mais le grand frère, le papa a tout payé pour qu'il devienne médecin. Maintenant, il est médecin, mais qu'il s'occupe maintenant de nous. Vous voyez? Donc, on place trop peu d'attentes sur le tout dernier. Et inévitablement, il manifeste moins de qualités de meneur. Oui ou non? Que les autres enfants de la famille. Il ne dirige jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas plus jeune que lui pour diriger. Il est le dernier, celui qui est dirigé. Voilà. Celui qu'on mène. Et par conséquent, souvent il n'est pas préparé à assumer le rôle de conducteur, de meneur plus tard. Donc vous voyez, humainement parlant, si vous et moi, nous aurions été à la place de Dieu, eh bien nous n'aurions pas été séduits par le tout dernier de la maison. Nous n'aurions pas jeté notre choix sur le tout dernier. Nous aurions regardé à l'aîné Eliab, oh là là, quelle prestance!
Quel baobab! Ouf! Il respire l'autorité, lui. N'est-ce pas? Regarde-le comment il marche. Ça, c'est vraiment le lui de Dieu. Voilà l'homme qu'il nous faut. Combien? 1m95. Ok, l'autre là. Comment? 1m68. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de lui 1m68? Nous voulons l'embing. Comment on dit? Donc, il est jeune. Mais tout cela n'avait pas d'importance pour Dieu. Il y a une chose qui a attiré Dieu. Et c'est là que je voudrais attirer votre attention. Voyez? Qu'est-ce qui a attiré Dieu? Eh bien, au verset 6 et 7, nous l'avons lu. C'est là qu'il y a la réponse. Lorsqu'Isaïe et ses fils arrivèrent devant Samuel, celui-ci dit en voyant Éliab, je venais de le dire, « Certainement le Messie du Seigneur est ici devant lui. » Mais le Seigneur dit au prophète, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. » Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde à... Donc le cœur d'Éliab était loin d'être le choix de Dieu. Le cœur. Puisque c'est le cœur, comme Dieu lui-même le dit, alors nous pouvons dire que ce qui a attiré David, qui a attiré Dieu vers David, c'était aussi l'état de son gloire à Dieu. C'est donc le cœur de David qui l'a distingué parmi les autres. Mes amis, la recherche de Dieu s'est achevée lorsque Dieu a trouvé David, l'homme selon son cœur. Ce jeune homme, lorsque Dieu le trouve et qu'il demande au prophète de lui donner l'onction, ce jeune homme était dans l'ombre. Vous voyez, quand on a cherché ses frères pour qu'ils viennent, eh bien, devant le prophète, lui était loin. Quelque part, il vivait en périphérie. Son orbite était périphérique. Il y en avait d'autres qui étaient plus proches du centre. Voilà. Donc, du centre, quand le papa a besoin... Ah, mon aîné, là, viens. Ah, non, donne ton vin. Mais le petit, lui, allez, va garder les moutons, petit. Au loin. Mais en agissant de cette manière, ils étaient tous loin de savoir que Dieu avait un plan. Alléluia. Paul, parlant de sa vocation, dira, « Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de l'essaim de ma mère. » Dieu préparait les circonstances. Ce jeune homme avait un don. C'était un véritable musicien de harpe. Ce jeune homme avait une fronde. Ce jeune homme avait son bâton, son bâton de berger. Et c'est là qu'il a beaucoup appris. Avant de venir dans le palais de Saül. Il a commencé à prendre soin du petit troupeau, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, les bergers sont des gens qui ont beaucoup de temps. Du temps libre. Pourquoi? Eh bien, pendant que le troupeau broute, pendant que le troupeau est en train de se nourrir, là sur le flanc des montagnes, généralement les bergers vont s'asseoir sur une pierre. Et David... Eh bien, faisait ça souvent. Il n'avait qu'une harpe. Et c'est là qu'il se mettait à jouer. Et c'est là qu'il composait, que son talent de chanteur, eh bien, avait commencé à prendre une dimension qui lui permettra un jour d'atterrir au palais royal. Gloire au Seigneur. Mes amis, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas tant ce que nous voyons. C'est ce qu'il y a derrière la façade. C'est ce qu'il y a derrière le comportement visible. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous comprenez pourquoi la Bible nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ce cœur que viennent les sources de la vie. Tout commence par là. Donc avec un cœur. Et pour terminer, quand il reçoit l'onction, quand il arrive, on lui donne l'onction, eh bien... À partir de ce jour-là, après l'onction, la Bible nous dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui et a commencé à être avec David à partir de ce jour et après. Donc, la descente du Saint-Esprit a donc confirmé l'onction royale qu'il avait reçue de la part de Samuel, oui ou non? Mais tout le monde savait. À commencer par Samuel lui-même, et puis les anciens de la ville, le papa de David, le frère de David, tout le monde savait que cette cérémonie-là était une cérémonie par laquelle Dieu instituait le roi. Samuel est parti en disant quoi? En ayant l'assurance que Dieu a maintenant un nouveau roi, oui ou non? Les frères de David, ayant vu leur frère recevoir l'onction, ils se sont dit, mais notre frère est maintenant... Les anciens qui ont vu ça se sont dit, le dernier fils d'Isaïe est donc... Et pourtant, suivez-moi maintenant très attentivement, et pourtant, cet événement des plus marquants a conduit David, non pas vers la couronne, mais vers des années de souffrance et d'agonie infernale. Ça ne l'a pas amené à recevoir la couronne, mais ça va ouvrir la porte à l'école de Dieu. Alléluia. Ce jour-là, mes amis, David s'enrôla, non pas dans la dynastie royale, mais il s'enrôla dans l'école de la soumission et du brisement. Il entra à cette école. Comment cela est possible? Très rapidement. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire, mes amis? Dieu savait très bien qu'on ne pouvait pas avoir deux couronnes. Hein? Il n'y en avait qu'une. Elle était encore sur la tête de qui? De Saül. Mais comment Dieu pouvait-il agir ainsi? Car même dans le règne animal, il n'y a qu'un mâle dominant par troupe. Si vous prenez le lion, la troupe des lions, à sa tête, il n'y a qu'un. S'il y a un autre mâle qui veut jouer, eh bien, il le met tout de suite. Il le remet à sa place. Ou alors, il le chasse. Généralement, le vieux mâle, avec l'âge, ne pouvant plus faire quoi que ce soit, le jeune lion qui arrive là, très intelligent, ils comprennent tout de suite que le vieux là n'en peut plus. Et il attaque, et le vieux ne pouvant plus résister, dans la plupart des cas, il est blessé, il s'en va pour toujours, et le jeune mâle devient le chef de la troupe. Dieu savait ça, hein? Il savait donc qu'on ne pouvait pas avoir deux rois dans le même... Dieu savait que dans un marigot, et c'est le cas, dans un marigot, il ne peut pas y avoir deux crocodiles mâles. Il faut qu'il y en ait un qui meure. Dieu savait. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu fait? Il amène, par le concours des circonstances, David dans le palais de... Pourquoi? Eh bien, mes amis, c'est là que commence le parcours de formation de David. Voyez, Dieu aurait pu s'arranger pour tuer Saül ou l'écarter d'une manière ou d'une autre afin que tout de suite David ait la couronne. Ça n'a pas été le cas. Frères et sœurs, voilà où commence l'école de David, l'école de la souffrance, l'école de la douleur, l'école des larmes. C'est là que le brisement va donc commencer et c'est là qu'il comprendra, et je terminerai par là, il comprendra la plus grande vérité qui soit en ce qui concerne le service avec Dieu, par Dieu et pour Dieu, c'est que Dieu voulait un vase brisé. Alléluia. Un homme brisé pour en faire son roi et recevoir la couronne. C'est beaucoup plus tard qu'il recevra enfin d'abord la couronne où c'est à Hébron. Avec les deux tribus. Et puis plus tard, la couronne par excellence sur les 12 tribus. Quel parcours! L'école de Dieu, c'est l'école de la souffrance, c'est l'école de l'épreuve, c'est l'école de la douleur, c'est l'école de la soumission du brisement. Il faut absolument passer par là pour devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia! Acclamons le Seigneur! Je vais donc vous demander d'incliner vos têtes dans la prière. Vous êtes peut-être en train de passer par des moments difficiles. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous garde encore là où vous êtes. Vous subissez toutes sortes de pierres de la part de vos adversaires, de la part de ceux qui ne vous portent pas dans le cœur. Et pourtant, vous savez que c'est dans la volonté de Dieu que vous êtes là. Vous ne faites que pleurer. Et puis, avec le temps, le découragement commence à vous envahir. Et puis, des idées arrivent, mais quitte, va-t'en. Non. Aujourd'hui, tu as compris. À partir du moment où tu te retrouvais là, alors que tu n'as fait aucun effort, comme nous le verrons avec David, sache que là, Dieu t'a donné l'opportunité de t'inscrire à son école. Et tout ce qui est en train de se passer, ces épreuves, ces humiliations, ce mépris de la part de ceux qui sont avec toi, font partie du plan de Dieu, car il faut que ton moi soit brisé. Le vase pour être utile entre les mains du Seigneur doit absolument être brisé. Alors, mon frère, ma sœur, je t'encourage, ne cède pas aux trompettes de la fuite. Nous le verrons, David est resté longtemps. Il a pleuré. L'autre l'a pris en jalousie. L'autre l'a humilié. L'autre lui a lancé des pieds, lui a jeté des lances. Mais David, ayant compris qu'il était là parce que Dieu le voulait, il a continué à rester. Parce que nous le verrons, il fallait que quelque chose se passe en lui. Alors si tel est ton cas, et que tu as besoin que le Seigneur t'aide, comme pour David, qu'il t'assiste, non pas qu'il te fasse partir de là où tu es. Non, reste mon frère, continue à pleurer. Reste mon frère, continue à demeurer dans le désert. Reste mon frère, continue à subir le foudre de ceux qui ne t'aiment pas, les moqueries de tous ceux qui ne t'aiment pas. Reste, c'est seulement ce prix-là que ton moi va être brisé. Alors, si tu veux que nous prions pour toi, lève-toi là où tu es. Et le Dieu de David, qui accompagnait David, eh bien, gloire au Seigneur. Merci pour tous ceux qui s'élèvent. Et vous qui nous suivez à la télé et qui avez été touchés par le message, vous pouvez aussi incliner votre tête. Le Seigneur veut un cœur brisé, un vase brisé. Et pour cela, il faut que ce vase accepte le choc, accepte la souffrance, accepte la douleur. Père très saint, je voudrais te remercier pour le message de ta parole. Tu vois tous ces bien-aimés qui se tiennent devant toi ce matin, parce qu'ils ont compris, Seigneur, que ce qui leur arrive est vraiment dans ton plan. C'est vrai qu'humainement parlant, c'est difficile de comprendre tout cela. Comment être, faire partie du royaume du Dieu qui est tout-puissant, qui est le guerrier redoutable, et en même temps continuer à être dans un état de fragilité, dans un état de vulnérabilité sur tout le plan, vulnérabilité financière, vulnérabilité physique, vulnérabilité professionnelle. Comment est-ce possible, Seigneur? Mais aujourd'hui, tu leur as parlé. Aujourd'hui, ils ont compris que ton école, c'est l'école de la soumission, c'est l'école de la reconnaissance de l'autorité établie, c'est l'école de la douleur, c'est l'école des larmes, Seigneur. Donne-leur la force de continuer, Seigneur, avec toi. Soutiens-les, ô Dieu, dans cette chaudière. Soutiens-les, ô Seigneur, afin que cette douleur, cette souffrance, ne puisse pas les amener à prendre des décisions irrationnelles, des décisions qui les mettraient en porte-à-faux avec ta volonté. Bénis chacun de nous, Seigneur, car nous avons besoin non seulement de nous inscrire dans ton école, non seulement de commencer, Seigneur, ô Dieu, notre parcours dans ton école, mais tu veux que nous allions, Seigneur, de classe en classe. Car à chaque fois, tu as un plan de brisement pour nous. Et tu nous utiliseras, nous deviendrons des hommes, selon toi, dans la mesure où nous serons de plus en plus brisés par toi. Merci, Maître, d'avoir posé ta main et d'avoir béni chacun de nous. Merci, Jésus. Amen.